Il est maintenant 19h30 ici à Paris, c'est Radio France Internationale que vous écoutez.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est avec vous, Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. À la une de cette édition, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Image saisissante à Goma, où les camps de déplacés se sont vidés après l'offensive éclair du M23 soutenue par le Rwanda. Il ne reste quasiment plus rien du vaste camp de Kanyarushinya au pied du volcan Nyiragongo, à suivre le récit de Paul Lorgerie dans ce journal. Le Rwanda répond au président burundais Evariste Ndayishimiye, qui dit craindre une régionalisation du conflit. Le Rwanda n'a jamais menacé le Burundi. Il n'a pas l'intention d'attaquer qui que ce soit dans la région. Déclaration du porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda. Et vous l'entendrez dans ce journal. Dans l'actualité également, le Maroc en sait davantage sur l'opération antiterroriste menée la semaine dernière dans la périphérie de Casablanca. Les quatre hommes interpellés ayant fait allégeance à Daesh, projetés de commettre une série d'attentats. Et puis les sports, le judo, le Paris Grand Slam qui se tenait à l'Accor Arena à Bercy n'a pas réussi aux athlètes africains engagés dans la compétition, nous dira Eric Mamrut. Goma, ville d'un million d'habitants dans l'est de la RDC qui abritait autant de déplacés de guerre, une affirmation qui était encore vraie il y a peu, mais voilà, ce week-end, certains sites de déplacés situés en périphérie de la capitale du Nord Kivu se sont vidés de leur population. Bonsoir Paul Lorgerie.
Bonsoir.
Et c'est notamment le cas à Kanyarushinya, au nord de Goma, où des camions ont été mis à la disposition de ceux qui avaient fui chez eux.
Oui, selon des témoins qui ont visité ces sites, le silence a remplacé le brouhaha des activités quotidiennes. Les tentes ont disparu et seules les roches volcaniques qui en délimitaient les contours sont visibles. Au sol, quelques sachets plastiques et habits éparpillés témoignent du passage des personnes qui avaient fui les combats. Il y a encore quelques jours, des dizaines de milliers de masures s'entassaient dans les camps de Bouchagala et de Kanyarushinya. 68 000 ménages, soit entre 300 et 400 000 personnes, y avaient trouvé refuge dans des conditions plus que précaires. Sur la route nationale 2 qui longe les deux sites et monte vers le nord de la province, de nombreuses motos et des camions transportant des déplacés ont été aperçus. Un habitant nous a confié que après l'arrivée du M23 et des soldats rwandais, la majorité des personnes déplacées ont regagné leur maison, probablement dans le territoire de Rutshuru. Une autre personne qui s'était réfugiée sur un site de déplacés nous a dit être encore hésitante. Sa maison détruite par des bombes, elle souhaiterait obtenir une aide pour sa reconstruction avant de pouvoir s'y réinstaller. Une situation qui, toujours selon des témoins, est également visible dans les sites situés à l'ouest de la ville. D'après certains déplacés, le M23 aurait mis à disposition quelques camions pour les personnes souhaitant volontairement retourner chez elles.
Merci Paul Lorgerie. Et puis face à ce conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, une réaction à l'unisson du G7 dans un communiqué diffusé hier, les ministres des Affaires étrangères condamnent fermement l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la RDC et plus particulièrement, je cite, la prise de Minova, de Sake et de Goma. Les chefs de la diplomatie exhortent le M23 et les forces rwandaises de défense à cesser leur offensive dans toutes les directions et à se retirer des zones contrôlées par les rebelles appuyés par les soldats rwandais, tout en appelant, je cite encore, un acheminement rapide, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire aux populations civiles. Le Rwanda, lui, rejette les accusations de la SADC qui s'inquiète dans un communiqué de récentes attaques du groupe armé du M23 et des forces de défense rwandaises. Les FDR défendent les frontières du Rwanda, elles n'attaquent pas les civils, répond Kigali ce dimanche. Des accusations également portées par le président burundais Evariste Ndayishimiye que vous avez pu entendre sur notre antenne et qui a dénoncé vendredi les avancées du Rwanda en RDC dans un conflit qui représente selon lui une menace pour toute la région, y compris son propre pays, et le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukuralinda, lui répond.
Il parle d'une guerre qui serait régionalisée, mais il oublie de dire qu'il participe déjà à la guerre aux côtés de FARDC et de Wazalendo et d'FDLR. Le Burundi est déjà en guerre. C'est son droit le plus absolu de tenir ce genre de propos. Mais le Rwanda n'a jamais menacé le Burundi. Le Rwanda menacerait le Burundi pourquoi ? C'est toujours des accusations qui viennent sans preuve, sans fondement. Cela ne facilite pas la résolution de l'autre côté de la frontière. En tout cas, le Rwanda n'a pas l'intention d'aller attaquer qui ce soit dans la région. Ça c'est clair, c'est sa position. Le Rwanda devra se défendre si c'est nécessaire, mais le Rwanda n'a pas attaqué qui que ce soit.
Voilà des propos recueillis par Lucie Mouillot. L'armée congolaise, elle annonce la mort de l'un de ses officiers dans des combats dans la province du Sud Kivu, province voisine de celle de Goma. Selon le communiqué de l'armée, l'officier, le colonel Rugabisha, est mort hier samedi dans les environs de Mukwiza, dans le territoire de Kalehe, après avoir repoussé les rebelles du M23 et l'armée rwandaise de Nyabibwe jusqu'aux alentours de Minova. Et puis jeudi dernier, la radio de l'ONU, Radio Okapi, rapporté que de violents combats s'étaient déroulés dans cette province du Sud Kivu, à moins d'une dizaine de kilomètres de Nyabibwe, où l'armée avait repoussé une attaque des rebelles soutenue par le Rwanda. L'armée tanzanienne, elle, annonce dimanche la mort de deux de ses soldats, membres de la mission de la SADC, lors des attaques récentes menées par le M23, soutenues par le Rwanda sur les villes de Sake et de Goma. Et enfin, de son côté, la mission des Nations Unies a décidé d'évacuer de la ville de Kinshasa les familles du personnel de la MONUSCO, une décision annoncée ce dimanche après-midi avec effet immédiat et pour une durée de 3 mois. 19h36 ici à Paris, des attentats déjoués au Maroc. 4 hommes ont été interpellés dimanche dernier, dont 3 frères dans la périphérie de Casablanca. C'était lors d'une opération mobilisant d'importants moyens. Cette semaine, les autorités marocaines ont donné davantage de détails. Elles affirment que les suspects avaient prêté allégeance à Daesh et envisagé de commettre une série d'attentats à l'explosif. Les explications de Mathias Reynal.
Had Soualem, une petite ville située à une trentaine de kilomètres de Casablanca, s'est réveillée dimanche dernier au milieu des agents cagoulés et des caméras de télévision. 4 membres d'une cellule terroriste présumée sont alors arrêtés. L'opération est d'une ampleur rarement vue au Maroc. Elle est menée conjointement par le Bureau central d'investigation judiciaire, le PSIJ, la Direction générale de la surveillance du territoire, la DGST, et la gendarmerie royale présente jusque dans les airs avec le déploiement d'un hélicoptère. En conférence de presse, le directeur du PSIJ, sorte de FBI marocain, a assuré que la cellule était sur le point de passer à l'acte. Ses membres avaient commencé à réunir les matières premières nécessaires à la fabrication d'explosifs et selon le responsable sécuritaire, ils projetaient, une fois leurs attentats perpétrés, de rejoindre les camps de Daesh dans la zone du Sahel. Lors de ce point presse, le porte-parole de la Direction générale de la surveillance du territoire a répondu aussi à ces Marocains qui ont pu exprimer des doutes, notamment sur les réseaux sociaux, remettant en question la crédibilité de l'opération. Le responsable a dénoncé une campagne de désinformation qui vise, selon lui, à entraver l'action des services antiterroristes. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Au Niger, un technicien chinois de la CNPC, la société qui exploite le pétrole nigérien, et son chauffeur ont été enlevés hier samedi. L'enlèvement a eu lieu à Faringa, c'est près du site pétrolier d'Agadem, dans l'extrême nord-est du pays. Les 2 gardes nationaux qui escortaient l'équipe ont été tués. Les sports, le judo, l'Arena de Bercy a accueilli ce week-end le premier grand événement de judo de l'année, le Paris Grand Slam. Aujourd'hui, les représentants africains n'y ont guère brillé, hélas, à l'image des 2 judokas sénégalais qui étaient aligné dans la catégorie des moins de 90 kilos, Abderrahmane Diao et Ryan Da Costa, éliminés tous deux dès le premier tour. Le reportage d'Eric Mamrut.
C'est frustrant parce que c'est largement emporté, quoi. Beaucoup de frustration. Ouais, vraiment déçu.
Ils ont bien résisté, mais ont finalement cédé, chacun opposé à un adversaire géorgien. Abderrahmane Diao, l'ancien, 30 ans, et Ryan Da Costa, 22 ans, fraîchement arrivé sur le circuit. Les 2 Sénégalais, nés en France, unis dans la défaite, mais pas seulement. Ryan Da Costa.
C'est mon ami, il est beaucoup plus grand que moi, alors... Je prends un peu exemple sur lui, j'aime bien son judo, il est sage, il m'a fait prendre en maturité. Il me donne beaucoup, beaucoup de conseils, c'est vraiment une très bonne personne. On est dans une concurrence mais très très saine.
Un Ryan Da Costa qui de son côté sert d'aiguillon à son aîné, Abderrahmane Diao.
J'aime bien le challenge, du coup bah, ça me surmotive. Si j'étais tout seul, qu'il n'y avait pas de concurrence, bah voilà, j'aurais quand même travaillé. Mais là, justement, je vais travailler encore plus pour prouver que voilà, je suis encore là, quoi.
Diao et Da Costa, épaulés par Diawara. Bye Diawara, l'ancien vice-champion d'Afrique sénégalais, aujourd'hui manager, fier de l'agressivité affichée aujourd'hui par ses poulains.
Dans le fond, je suis très content parce que moi-même, en tant qu'athlète, j'avais ce complexe d'infériorité par rapport aux Français parce que je termine CEP. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc sur la prestation, je suis très content. Après, c'est toujours pareil, c'est le problème de moyens qui fait qu'on n'a pas de continuité. Ce qui nous manque seulement, d'enchaîner les stages, d'avoir une programmation claire sur une Olympiade, c'est compliqué.
Un trio sénégalais désormais tourné vers les prochains championnats d'Afrique. Eric Mamrut, Bercy, RFI.
Et ces championnats d'Afrique auront lieu en avril prochain à Abidjan, Côte d'Ivoire. On aura l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir suivis. Les 19h40 ici à Paris, 18h40 en temps universel. Bonne soirée.